Alors le texte de la prédication se trouve dans Matthieu 19, versets 16 à 26. C'est l'histoire du jeune homme riche. Et voici qu'un homme s'approcha de lui et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus répondit, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, enfin, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « Tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » À cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et Jésus dit à ses disciples, « En vérité, je vous le déclare, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » À ces mots, les disciples étaient très impressionnés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Fixant sur eux son regard, Jésus leur dit, « Aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. »
Bonjour à toutes les personnes que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Ça me fait plaisir de me retrouver parmi vous. Alors, l'art de l'enseignant, c'est de savoir donner de bonnes réponses, même quand les questions sont mauvaises. Et c'est un peu ce que fait Jésus dans ce texte. « Que ferais-je de bon pour avoir la vie éternelle ?» demande le riche. Son problème n'est pas tant de plaire à Dieu que de posséder une chose qui lui manque. Face à cette mauvaise question, Jésus aurait pu lui faire tout un discours culpabilisant en lui disant que non, décidément, il n'a rien compris à la vie. Mais non, Jésus se montre beaucoup plus fin. Il lui pose une question sur sa question. « Pourquoi me questionnes-tu au sujet de ce qui est bon ?» Sans attendre de réponse, Jésus ajoute « Dieu seul est bon ». Et c'est un peu une question-réponse qui est là pour titiller le riche. C'est comme si Jésus lui disait « Est-ce que vraiment tu recherches le bien ? Si c'est le cas, alors cherche Dieu, parce que lui seul est bon. Mets-le au centre de ta vie. Ne cherche pas à posséder une chose de plus, mais développe une relation vivante avec Dieu. » Avec ce Dieu de toute bonté. Jésus n'attend pas de réponse. C'est au riche de répondre pour lui-même. Et Jésus laisse là le jeune homme tout à fait libre de choisir, sans le culpabiliser. Et alors, il poursuit Jésus en reformulant maintenant la mauvaise question du riche. Et il lui dit, « Avoir la vie éternelle, c'est d'abord te décider. » Si tu veux entrer, dit Jésus. Dieu ne force personne à entrer en relation avec lui. Le riche, lui, n'est pas du tout dans cette logique. Il veut posséder une vie dans laquelle il n'est même pas encore entré. Mais la vie ne peut pas s'acheter. C'est un cadeau. Ce n'est pas une acquisition pour soi tout seul qu'on garderait dans un coffre-fort, non. La vie est un don de Dieu. Une communion, une relation avec lui qui doit se développer de plus en plus chaque jour. Ce jeune homme a une mentalité tellement proche de nous, dans notre société si matérialiste. Sans cesse, on nous vante tel ou tel produit qu'il faut absolument acheter pour bien vivre. Impossible d'être heureux sans iPod, sans villa, sans vacances à l'autre bout du monde, sans voiture et que sais-je. Alors attention, Jésus ne condamne pas ces richesses. Bon, vous me direz qu'ils ne connaissaient pas l'iPod, hein. Mais non, Jésus ne condamne pas. À aucun moment, il ne reproche quoi que ce soit aux riches. Être riche en soi n'est pas un péché. D'ailleurs, plusieurs récits bibliques nous parlent de la richesse comme d'une bénédiction de Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, dit Jésus, garde les commandements. La réponse est claire. Garde les commandements. Parce que entrer dans la vie, eh bien, c'est s'attacher au Dieu de la vie. Et parce que ce Dieu est bon, eh bien, il nous demande d'agir selon sa bonté, c'est-à-dire en obéissant à ses commandements. Voilà une réponse tout à fait logique. Alors Jésus a parfaitement répondu à la question, à la mauvaise question du riche. Il a répondu avec un ordre, garde les commandements. Et cet ordre aurait dû mettre le riche en route. On s'attendrait à ce que l'histoire se termine et que l'homme acquiesce et parte mettre les commandements en pratique. Mais non, le riche n'est pas satisfait. Quel commandement faut-il garder ? Demande-t-il. Drôle de question. L'homme connaissait la loi, la Torah. Par définition, une loi doit être respectée dans son entier. Si j'observe la loi sur la circulation, mais que j'enfreins celle sur le logement, tôt ou tard j'aurai des ennuis. Pourquoi le riche demande-t-il quel commandement garder ? Cette question relève l'incertitude dans laquelle se trouve le riche. Garder les commandements de la Torah, au fond, est-ce vraiment suffisant ? Pour mériter la vie éternelle, ne faudrait-il pas rajouter d'autres commandements ? Ne pourrait-il vraiment pas acheter quelque chose qui lui donne la certitude que cette vie est bien à lui, qu'il l'a vraiment acquise ? Comment être sûr de posséder cette vie pour lui tout seul ? Oui, l'homme n'est visiblement pas rassuré. Il n'est pas sûr d'avoir cette vie-là. Alors la deuxième réponse de Jésus est tout aussi claire que la première. Il lui récite 5 des 10 commandements. Et puis il ajoute encore Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est intéressant. Jésus ne cite que des commandements concernant les relations humaines. Dans son premier dialogue, dans ses premières questions-réponses avec le riche, Jésus avait rappelé que Dieu seul est bon et que si le jeune homme voulait faire le bien, eh bien, il devait impérativement se tourner vers Dieu, seule source de toute bonté. Il devait donc développer une relation avec Dieu. Eh bien, maintenant, Jésus encourage le riche à pratiquer cette bonté dans ses relations humaines. Comment, concrètement ? Eh bien, d'abord, en ne faisant rien de mal à son prochain. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Et puis ensuite, en ayant une attitude de bonté envers tous et en toutes circonstances, tu honoreras ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le riche se préoccupe de posséder quelque chose qui lui manque. Et voilà que Jésus ne lui parle que de relations. On sent bien le décalage entre les priorités du riche et celles de Jésus. De nouveau, on s'attendrait à ce que le riche acquiesce à ses commandements et parte les mettre en pratique. Mais non, il n'est toujours pas satisfait des réponses de Jésus. « J'ai observé toutes ces choses, dit-il, que me manque-t-il encore ?» On a vu dans sa deuxième question, « Quel commandement faut-il garder ?» que le riche manquait d'assurance. Maintenant, dans sa troisième question, on est au cœur du problème. « Que me manque-t-il encore ?» Au fond de lui, le riche a un vide énorme. Un vide qu'il n'arrive pas à combler avec toutes ses richesses. Il a gardé tous les commandements, il a voulu tout accomplir parfaitement, mais rien n'y fait. Le vide est toujours là, au plein cœur de sa vie, et un vide qui devient une véritable obsession comme ces questions insistantes le prouvent. Un vide aussi en forme d'angoisse. L'angoisse d'avoir passé à côté de la vraie vie. D'ailleurs, dans le texte, cet homme n'a pas d'identité. On sait qu'il est jeune et riche, c'est tout. Dans notre société, être jeune et riche, c'est l'idéal, non ? Et pourtant, cet idéal de réussite cache souvent un terrible vide existentiel et relationnel. La course après les dernières nouveautés qui nous manquent, les dernières technologies qui combleront enfin tous nos besoins, les derniers loisirs et que sais-je, cette course laisse un vide énorme. Car en réalité, plus on s'accapare de richesses, plus le manque augmente. Avec beaucoup de patience, Jésus reformule maintenant la troisième question du riche. Si tu veux être parfait. Encore une fois, Jésus invite vivement le riche à prendre une décision. Il lui disait avant, si tu veux entrer dans la vie, maintenant c'est si tu veux être parfait. Oui, il y a une décision à prendre. Et Jésus ne se laisse pas happer par le vide existentiel du riche. Quand on sent le besoin chez l'autre, c'est tellement tentant d'y répondre à la seconde, comme ça, pour satisfaire l'autre. Mais Jésus sait bien que le riche ne sera jamais satisfait tant qu'il n'aura pas changé de mentalité et changé de cœur. Alors le Seigneur nous a donné une capacité de décision, à nous de l'utiliser. À nouveau, Jésus s'approche de la misère du riche avec une infinie bienveillance. Il ne vient pas avec ses gros sabots en lui disant qu'il n'a rien compris à la vie ou en lui donnant des coups de bâton pour expier ses fautes, non. Le Seigneur demande juste, en guillemets, juste une décision. C'est là le nerf de la guerre. Le riche avait accumulé des richesses tout autour de lui, faisant de son propre univers un lieu de « perfection », entre guillemets. J'étais dernièrement chez des amis chrétiens qui viennent de se construire une somptueuse villa minergipée avec vue sur les Alpes, immense baie vitrée, avec store tout automatique, cuisine, une grande cuisine agencée, avec une alignée d'armoires, toutes sortes d'appareils électroménagers, de haut standing. Bref, tout est parfait dans cette maison. Après l'avoir visitée, évidemment, j'ai discuté avec ses amis des aléas du chantier, j'ai pris des nouvelles de leur enfant, on a discuté de leur job, et puis après, on n'avait plus grand-chose à se dire. Et en sortant de chez eux, oui, j'avais un sentiment de tristesse, de vide. Bien sûr, leur maison est jolie, et puis Minergie-P, c'est très bien, ça protège l'environnement. Mais cette maison... J'avais l'impression que c'était toute leur vie, tout leur idéal. Au point que je me demande même si la maison ne passe pas avant le Seigneur et avant leur enfant. Au fil de la discussion, cette maison semblait devenir comme un écran dans notre relation qui nous séparait les uns des autres, tellement cette maison prenait de place. Le riche de notre histoire est dans une situation semblable. Avec ses richesses, il s'est créé son monde parfait. Enfin, parfait selon ses critères à lui, bien sûr. Et voilà que Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Alors là, le riche est très intéressé, il tend l'oreille. Parce que justement, il a passé toute sa vie à faire de son petit monde un monde parfait. Mais dans ce monde parfait, il y a un grain de sable. Un grain de sable dans les rouages. Il y a une chose qui lui manque. C'est une vie qui dure toujours. Parce que si la vie s'arrête, tout son monde s'écroule. Alors voilà, il tend l'oreille. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Mais à nouveau, la réponse de Jésus va le décevoir. Va, vends tes biens, donne-le aux pauvres, suis-moi. Avec ces quatre impératifs, tout son monde s'écroule, comme un château de cartes. Toutes ses sécurités disparaissent. si tu veux, disait Jésus. Oui, si tu veux faire ce pas de foi, nous dit le Seigneur, alors t'inquiète pas dans le ciel. Tu auras tout plein de trésors, des choses inimaginables. La même question nous est adressée à nous aujourd'hui. Veux-tu faire ce pas de foi ? Alors attention, être sur la paille n'est pas une condition pour entrer dans le royaume de Dieu, pour suivre Jésus, non. Mais lâcher nos idoles, oui. Car il est impossible de servir deux maîtres. Je ne peux pas courir après la richesse tout en suivant le Seigneur. C'est un grand écart qui finira par m'écarteler, me paralyser. Alors les idoles, vous me direz, c'est un terme un peu barbare qu'on retrouve souvent dans la Bible. Et puis on se dit que vraiment ces pauvres Israélites n'étaient vraiment pas un peuple très élaboré pour s'agenouiller devant un veau d'or, par exemple. Détrompons-nous. Notre cœur à nous n'est pas meilleur que celui des Israélites. Alors bien sûr, les idoles ont un petit peu changé, mais le principe reste le même. Chaque fois que je mets quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu, c'est-à-dire au centre de ma vie, eh bien, je me construis une idole. Chaque fois que je cherche à posséder égoïstement, plutôt qu'à partager ou à donner, eh bien, je risque de faire de mes biens une idole, de me créer mon monde à moi, égoïste et sans Dieu. Va et vends tes biens, dit Jésus. Ce qui nous apparaît comme un ordre un petit peu sévère est en réalité une mesure de grâce. Parce que Jésus a vu combien cet homme est lié par ses richesses. Se débarrasser de ses idoles, faire le ménage dans sa vie, dans cette vie encombrée par tout ce qui le détourne de Dieu et le distrait du bon chemin. Voilà la décision que doit prendre cet homme s'il veut s'en sortir. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Faire preuve de bonté envers les pauvres, voilà une façon toute simple de mettre en pratique le fameux commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donner librement, eh bien, c'est exprimer cette bonté reçue de Dieu, de ce Dieu seul qui est bon. Oui, quand le riche aura accepté de lâcher prise, d'abandonner ses richesses, et même de se faire pauvre afin d'enrichir les autres, alors il sera prêt à suivre Jésus. Et moi, quelles sont peut-être les idoles que je me suis fabriquées? De quoi est-ce que le Seigneur me demande de me débarrasser ce matin? Quel est le monde parfait, entre guillemets, que j'ai réalisé autour de moi et qui ne correspond pas aux relations de bonté que le Seigneur aimerait construire dans ma vie? La richesse de ce jeune homme lui permettait de trôner sur un piédestal, d'où il pouvait regarder les autres de haut. Au fond, son Dieu, encore plus que sa richesse, son Dieu, c'est lui-même. Donne, accepte de perdre, lui dit Jésus. Alors, tu seras au même niveau que les autres. Et Dieu sera enfin celui qui est au-dessus de toi et de tous. Celui vers lequel tu pourras te tourner. Donne. C'est la meilleure façon de laisser tomber ton orgueil, ton égoïsme, ton autosuffisance pour devenir entièrement dépendant du Seigneur. Alors, quels sont les domaines où je me sens si riche que je crois planer au-dessus des autres? Attention, lâche prise, nous dit Jésus, et tu auras un trésor dans le ciel. Quel est ce trésor, me direz-vous? Eh bien, la vie, bien sûr, la vie avec un grand V. C'est précisément ce que recherche le riche. Quoi de mieux qu'une vie qui dure toujours dans la présence du Dieu de toute bonté, de toute richesse? Souvent, on voit la vie éternelle comme un truc où il y a des âmes vaporeuses qui s'ennuieront mortellement, si on peut dire comme ça. Mais non, là, ce sera une vraie vie, avec un grand V, une vie excitante, dynamique, où on pourra faire plein de choses super. L'éternité ne sera pas trop longue pour découvrir toute la profondeur de l'amour de Dieu. L'éternité ne sera pas trop longue non plus pour tisser des relations d'amour avec tous les frères et sœurs, tous les croyants de tous les temps. Quand on a un partage de qualité avec un frère ou une sœur en Christ, eh bien, on échange des expériences vécues dans notre foi. Quel encouragement! Eh bien, c'est ce type de relation-là qu'on vivra encore bien plus dans le royaume de Dieu. Jamais plus le mal et la mort ne nous sépareront. Oui, quel fabuleux trésor, la vie éternelle. À l'inverse, quelle tristesse. C'est pathétique de voir ce riche quitter Jésus. Non, il ne veut pas lâcher son matérialisme et toutes les sécurités qu'il s'est construites. Par son invitation à la perfection, Jésus montre aux riches combien il est loin du compte. Lui qui croyait avoir accompli scrupuleusement tous les commandements, il ne s'était même pas intéressé aux pauvres. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, dit Jésus. Cet avertissement n'est pas destiné qu'aux milliardaires, hein. Ça nous concerne tous. Chaque fois que mon cœur s'attache à des richesses plus qu'à Dieu, nous sommes de ceux qui entrent difficilement dans le royaume. Et les disciples ont bien compris les enjeux et ils sont saisis de crainte. Mais alors, qui donc peut être sauvé, demande-t-il. Le problème, c'est pas tant la richesse en soi, mais d'une mentalité de riche, comme la Odyssée d'ailleurs dans l'Apocalypse, qui place toute sa confiance dans ses biens, finalement en évacuant Dieu de sa vie. C'est la mentalité du self-made man qui croit s'être créé lui-même de toutes pièces et qui n'a plus besoin de personne. Devenir comme des dieux, être sa propre idole, n'était-ce pas le rêve d'Adam et Ève? Un rêve devenu cauchemar depuis la nuit des temps. Oui, chaque fois que Dieu n'est plus au centre de ma vie, le cauchemar me guette. Qui donc peut être sauvé? À cette question lancinante, Jésus ne répondra pas. Il ne dira pas qui sera sauvé, un mystère qui reste entre les mains de Dieu. Mais Jésus revient d'une certaine façon à la première question du riche, « Que ferai-je de bon pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus affirme aux hommes, « C'est impossible. » Impossible de faire quoi que ce soit pour gagner, pour mériter la vie. Parce que la vie ne se mérite pas, elle se reçoit de Dieu. Alors la conclusion de tout ça, eh bien, c'est une fabuleuse promesse qui nous est donnée par Jésus-Christ. Auprès de Dieu, toutes choses sont possibles. Alors ne repartons pas tristes comme le riche, mais abandonnons nos idoles afin de nous laisser entraîner avec tous les croyants dans la joyeuse marche à la suite du Christ. Alors bien sûr, il y aura des difficultés, mais elles sont possibles à surmonter. Parce que l'impossible, c'est Jésus-Christ qui l'a accompli à la croix. Il nous offre aujourd'hui la possibilité de recevoir un cœur nouveau, non plus imbu de nous-mêmes et pécheurs, mais dépendant de Dieu, destiné à la perfection. « Si tu veux, nous dit Jésus, eh bien alors, toutes choses sont possibles. » Amen.